ma foi, j'y crois. Ma foi, j'y crois.
Ma foi, j'y crois.
Une émission de Benoît Petit.
Aujourd'hui, avec Sébastien Nadeau. Bonjour. Vous êtes, je ne sais pas comment vous appelez, en tout cas ancien député, et vous venez nous parler des libertés et de la dignité, spécialement à partir de deux thèmes qui vous sont très chers, vos convictions. C'est d'abord le rapport que vous avez fait à l'Assemblée nationale, que nous avons mis sur le site pour faciliter le replay. Et puis, les prisons, hein, l'absence de liberté de Amadou Vamulke, qui est un Camerounais. Vous allez nous expliquer. Merci, bonsoir d'être venu.
Merci beaucoup à vous, merci pour cette belle invitation. C'est vraiment un plaisir de pouvoir venir échanger avec vous de sujets qui sont extrêmement importants et qui sont généralement un petit peu ballottés de ci, de là par les médias. Donc c'est avec grand plaisir que je suis là.
D'ailleurs, vous avez amené aussi le livre de Fratelli Tutti par rapport à cette dictature des médias. Mais il n'y a pas que ces dictatures des ondes et du marché. Il y a aussi des dictateurs qui empêchent des personnes de sortir de prison pour des prétextes fallacieux. Et puis, il y a d'autres personnes qui pensent que nous avons trop de migrants qui viennent en France. Donc je fais le lien, n'est-ce pas? Parce que liberté, dignité, c'est le thème qui vous est très cher. Et vous êtes déjà venu à Radio Présence, ici à Toulouse, parce qu'il fallait organiser un colloque avec RCF, avec M. Didier Léchy et d'autres, je pense qu'on prononce son nom comme ça, avec ses responsabilités. Un débat assez polémique, mais nous en parlerons un tout petit peu parce qu'il s'agit de savoir qu'est-ce que c'est que la démocratie.
Vous me prenez à froid sur une question extrêmement complexe pour y répondre. La démocratie, c'est la manière de vivre en société où les uns respectent les autres et où chacun peut espérer vivre au mieux son quotidien. Alors après, ça passe par un certain nombre de principes organisateurs de la vie en société. On parle du droit de vote, on parle des élections. Mais cet aspect-là est un tout petit aspect de ce qu'on pourrait appeler la démocratie. La démocratie, la base, certainement, c'est la capacité au dialogue et c'est la capacité à entendre l'autre différent dans ses points de vue, dans sa manière de vivre et à pouvoir néanmoins vivre avec de manière satisfaisante et l'autre et soi-même.
S'écouter, ne pas interrompre l'autre. Et puis, vous citez Albert Camus dans le dialogue que vous avez eu par mail avec Amadou Vamulke dans ses prisons au Cameroun. Camus qui dit « La démocratie, ce n'est pas la loi de la majorité, mais la protection de la minorité. » Et c'est le grand débat. Le peuple a décidé. Ah oui, mais vous êtes député, donc c'est vous qui préparez les lois, qui avez la responsabilité de modifier peut-être certaines lois qui sont dépassées ou que certains pensent injustes, mais bon, ceux qui ne sont pas d'accord. Et puis on avait dit ensemble, je crois, pour préparer l'émission, qu'on ne change pas la société par décret.
Non, il y a tout un travail sur la manière dont les gens se conçoivent vis-à-vis des autres, qui est le premier des travaux, qui est quelque chose d'éminemment politique. Vous me disiez, je suis député. J'étais député. Hein. J'ai fait un mandat. Je pense que j'ai essayé d'assumer jusqu'au bout, en tant que quelqu'un de militant, d'engagé, cette possibilité citoyenne de représenter la nation pendant 5 ans. C'est beaucoup, c'est un fardeau. C'est aussi un honneur. Et à travers ce mandat, j'ai embrassé les problématiques de la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Alors un choix qui peut paraître curieux puisque je suis enseignant, puisque j'aurais pu aller sur la Commission éducation, mais finalement les affaires étrangères, je me suis dit que c'était ce que je connaissais pas. et donc que j'avais envie de connaître. Et je me suis aperçu très rapidement que c'était aussi l'endroit dont personne ne parlait, et où il y avait toutes ces situations, toutes ces causes qui ont été portées pendant des temps, et puis qui finalement aujourd'hui sont de moins en moins portées. Et notamment cette question de la dignité. Alors il y a la dignité, vous en parliez concernant la liberté en prison. Alors j'ai eu ces échanges avec Amadou Vamulke, j'ai essayé d'intervenir pour le faire sortir. C'est quelqu'un qui était directeur de la télévision publique camerounaise et qui, quand il a essayé à la tête de cette télévision de faire disparaître une sorte de malhonnêteté financière qui est assez coutumière dans les pratiques, il s'est retrouvé emprisonné, et puis il est depuis 7 ans en prison. C'est quelqu'un de puissant intellectuellement, c'est quelqu'un de plein de sagesse.
Pas de procès, sans cesse.
Il a eu déjà une centaine de comparutions, mais dont certaines, et là on est sur le procès kafkaïen par exemple, Excellence, on le renvoie en prison en lui disant « Nous n'avons aucune pièce d'accusation, donc aujourd'hui nous ne pourrons pas vous juger. »
Et vous avez fait intervenir un certain nombre de responsabilités politiques internationales.
Oui.
Donc là, ça dépasse l'aspect proprement national.
Tout à fait.
Je vous avais dit, mais on ne va pas parler de l'Europe, on ne va pas parler des débats, l'impossible concorde européenne face aux vagues migratoires. Vous voyez, ces débats qu'on peut sur des chaînes qui sont importantes au niveau des débats citoyens. Et alors, on c'est qui ? Nous c'est qui ? C'est ça le débat, n'est-ce pas, de vous qui parlez, j'allais dire, au nom du peuple. En tout cas, il y a plusieurs partis.
Écoutez, pendant 6 mois, j'ai présidé ce qu'on appelle une commission d'enquête à l'Assemblée nationale. Une commission d'enquête, c'est beaucoup de moyens pour faire le premier travail d'un parlementaire, qui est le contrôle de l'action du gouvernement. Cette commission d'enquête, elle visait à observer les conditions de vie et d'accès aux droits des migrants en France, en fonction, bien évidemment, des textes nationaux et internationaux auxquels la France est partie. Donc ça, pendant 6 mois, avec une trentaine de députés de toute sensibilité, représentative en tout cas de l'Assemblée à cette période, on a interrogé tous les acteurs. Alors moi, en tant que président, j'ai eu un premier souhait exaucé, c'est qu'on a commencé les auditions par écouter des migrants dans leur parcours.
Et vous avez voyagé à travers l'Europe ?
Et à travers le monde, dans les camps de réfugiés en Irak, en Égypte, j'ai eu des échanges aussi dans des camps palestiniens au Liban. Donc effectivement, l'idée, c'était d'essayer de comprendre la dimension migratoire dans son ensemble. C'est-à-dire pas seulement le moment médiatique sur ce sujet. On comprend bien, je pense que maintenant, il y a une certaine conscience que la réalité, elle est déformée par le débat public. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement fort. Vous me parliez de Fratelli Tutti tout à l'heure. Effectivement, c'est pas moi qui l'invente. On le retrouve dans le propos du pape François. Le débat médiatique aujourd'hui transgresse, ment finalement sur ce qui se passe sur le terrain.
La peur qui engendre parfois la haine de l'autre. Et puis, toutes ces questions. Alors, également que nous avons perdu la confiance du gouvernement. Et alors, vous citez Bertolt Brecht, RDA, l'homme de théâtre, qui dit « alors, si le peuple a perdu la confiance du gouvernement, le gouvernement a perdu la confiance du peuple, on va changer de peuple. »
Il faut dissoudre le peuple, oui. Il est arrivé à un moment, j'ai même dans l'hémicycle un jour de grands chahuts, alors le sujet était sur la question du vaccin, mais c'était devenu tellement ridicule le débat sur des gens qu'on catégorisait anti, pour. Il y avait des gens qui avaient peur. Il y avait des gens qu'il fallait rassurer. Il n'y avait pas des contre. Il n'y avait pas une espèce de guerre de sécession à mener dans le pays. Bien au contraire, il fallait essayer de trouver, face à l'inconnu, face à l'incertain, qu'était cette menace du Covid, il fallait trouver des moyens de rassurer et d'être le plus opportun, efficace possible.
Et un adversaire contre qui se battre est donc la théorie du complot.
Et cet adversaire qui est terrible et qui fonctionne extrêmement bien à travers nos nouvelles technologies que sont les réseaux sociaux. On a un système qui est un système intelligent. C'est un système intelligent, mais qui n'a pas de conscience.
Le système, c'est-à-dire le fait de voter ?
Non, ou... le système des réseaux sociaux.
Nouvelle technologie de l'information et de la communication, oui, ce qu'on appelle NTIC ou un autre acronyme.
Cet ensemble, c'est quelque chose qui a un impact, je dirais, de plus en plus fort quand on va vers les jeunes générations. C'est-à-dire qu'il y a les jeunes qui sont nés avec ça et qui prennent l'information à travers ça, à travers des mécanismes qui émanent véritablement d'un système intelligent qui sélectionne en fonction de critères, mais qui est un système sans conscience, sans morale, sans éthique.
On a parlé de la génération Z, comme zapping ou le nom d'une autre personne que je ne veux pas nommer ici, Z. Après la génération du baby-boom, la génération X, Y, c'est-à-dire celle des téléphones portables, et avant la génération alpha. Mais bon, moi je suis démographe et je pose la question d'une classe d'âge, à la ville, à la campagne, c'est pas la même chose. Et vous, vous étiez armé parce que vous avez fait des études d'historien, n'est-ce pas ?
Tout à fait. Et si on rentre un petit peu dans le plus précis, le plus concret, sur la période médiévale, avec une spécialisation, on va dire, du XIIIe au XVe siècle, sur l'espace français, ibérique et un petit peu germanique.
Alors, ce qui amène aussi une comparaison, non pas diachronique ou synchronique, mais les travaux que font... j'allais dire la famille Vievorka, puisque nous avons Annette Vievorka qui travaille sur la Shoah. Nous avons Michel Vievorka qui travaille sur les différents profils des migrants, puisqu'il crée une manière de dire qu'on ne peut pas tous les mettre dans le même sac. Et dans les cahiers internationaux de sociologie ou bien dans la question de la société, se pose la question de l'intégration qui n'est pas assimilation. Et je crois que Michel Vievorka était votre directeur de thèse.
Alors, il n'était pas mon directeur, il était dans mon jury de thèse.
Voilà.
Et c'est devenu depuis un ami que je fréquente régulièrement. On ne peut pas mettre, bien évidemment, tous les gens dans le même sac. C'est une constante, c'est une évidence. Les raisons pour lesquelles des gens se déplacent pour un temps parfois maîtrisé, parfois qui ne l'est pas, sont très diverses. Mais par contre, on peut mettre tous ces gens dans une même situation, c'est que quand ils viennent en France, nous avons des obligations, notre République a des obligations qu'elle s'est données, qu'elle a choisies par la voix de son législateur, qui sont que ces gens doivent être accueillis dans la dignité, dans le respect de leurs droits, et ils en ont. Et malheureusement, cette commission d'enquête dont je vous parlais tout à l'heure a abouti à des résultats qui sont assez effrayants, puisque notre conclusion essentielle, c'est pas seulement Sébastien Nadeau, président de la commission d'enquête, c'est un rapport qui a été voté par une trentaine de parlementaires représentatifs de l'hémicycle, qui dit le compte n'y est pas, la promesse républicaine n'y est pas, on ne respecte pas les droits des migrants dans notre pays. Et c'est dramatique, et c'est d'autant plus dramatique quand on va vers des jeunes enfants qui ont 13, 14 ans, 15 ans, qu'on abandonne à la rue, qu'on n'assiste pas.
Alors, les centres de rétention pour ces mineurs, et donc ici nous sommes bien placés pour savoir qu'il y a les cercles de silence. Mais je pense que nous reviendrons dans quelques instants sur ces sujets. Nous allons faire une petite pause musicale, puisque vous nous avez apporté un petit peu de musique pour essayer de nous ouvrir au silence, nous ouvrir à ce mystère de la fraternité. Et ce sont des jeux interdits. Merci pour l'avoir apporté.
Thank you.
Ma foi, j'y crois, avec Benoît Petit.
Et aujourd'hui, avec Sébastien Nadeau, vous êtes ancien député, vous venez nous parler de vos convictions. Liberté avec un S, dignité. Et vous nous avez apporté ce moment de silence, cette pause, ce concert de Narciso Yepes. Pourquoi ?
D'abord parce que c'est un havre de paix, et puis parce que la musique, c'est le dialogue, c'est le dialogue permanent. Universal. C'est quelque chose qu'on n'arrive pas avec le langage à toujours mener de manière satisfaisante, et là on y parvient. Quelqu'un qui entend cette musique peut être très touché. Vous savez, il y a une musique ukrainienne, sensiblement de la même période, dont on ignore qui est à l'origine de quoi, qui est très connue en Ukraine. Et avec les mêmes sonorités. Et donc, évidemment, Je vous interdis, ça fait écho au film de René Clément, La guerre. Aujourd'hui, on en est où ? Est-ce que les hommes apprennent du passé ? Est-ce qu'ils tirent des enseignements ?
Plus jamais ça.
Moi, j'ai travaillé à l'Assemblée nationale pour lutter contre... quelque chose que la France devrait avoir en honte, c'est toutes ces exportations d'armes vers des pays qui n'attendent qu'une chose, c'est d'en découdre. Et la France, malheureusement, est le troisième pays exportateur d'armes au monde, juste après les États-Unis et la Russie. Et envoyer des armes dans des régions où on sait qu'il y a une très forte conflictualité, eh bien, est-ce que c'est vraiment quelque chose de raisonnable ? Est-ce que c'est digne du pays des droits de l'homme ? Et donc, cet écho à la guerre à travers cette musique, c'est quand même s'interroger sur comment se fait-il qu'on ait la guerre aujourd'hui en Ukraine ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas envisager,
prévenir,
parce qu'évidemment, une fois qu'on est confronté... à cette agression, puisqu'il y a une agression, évidemment.
Ah oui, mais de qui ? Parce que certains disent que c'est l'OTAN qui va déborder par rapport à d'anciennes frontières. Mais bon, objection de conscience, le député n'a pas de responsabilité et où en est le devoir de réserve ?
Une chose, un principe qui, de tous mes combats, est vraiment quelque chose d'important... c'est que tout combat se mène sans violence. Il y a la violence physique, mais il y a aussi la violence symbolique, la violence psychologique. Toutes les formes de violence sont à essayer d'évacuer, et ça passe par respecter l'autre dans ses différences, dans ses croyances, dans sa dignité. Alors, sur la question du devoir de réserve, on est en train de cheminer vers la laïcité, je me trompe ?
Oui, bien sûr, je vous dépose.
Écoutez, le moment est inquiétant pour moi. La laïcité, c'est quoi ? C'est un texte législatif, la loi de 1905, mais c'est pas que ça. C'est pas que ça. C'est ce texte. Le contenu du texte dit quoi ? Ce qui est primordial, c'est la liberté de culte.
Et moi, L'État protège les convictions de chacun.
Donc, est-ce que la laïcité revue au goût du jour, malheureusement, aujourd'hui, de beaucoup de gens, c'est sauter sur toute personne, surtout jeune, qui a un médaillon autour du cou, ou un voile ici ou là, puisque bien évidemment, toutes les religions sont en ce moment un petit peu pourchassées par... des gens qui, d'après moi, interprètent très mal le sens des pères fondateurs de la laïcité. Et il y avait de la conflictualité en 1905. Hein. Le Vatican a été très fort contre ce moment de la loi 1905. Mais néanmoins, ce texte, c'est un texte de neutralité. C'est pas un texte d'agressivité contre quiconque. Donc, le devoir de réserve, moi, j'aurais envie de dire, est-ce qu'on pourrait passer vers la laïcité intelligente ? Moi, je suis toujours effaré quand j'entends qu'il ne faut pas une crèche sur la plage du village, un sapin de Noël. Enfin, qu'est-ce que c'est que ces histoires ?
On n'agresse personne. Mais ceux qui s'opposent aux mesures d'éloignement, comme les OQTF, vous connaissez, n'est-ce pas ?
L'ordre
à quitter le territoire, il n'y en a pas assez ? Il y en a... Bon, Elles ne sont pas appliquées.
Mais c'est la bêtise du système dans son énormité, ses obligations de quitter le territoire. D'abord, c'est ne pas comprendre ce qu'est une migration. C'est ne pas comprendre pourquoi des gens éventuellement viennent vers notre territoire. Il y en a un certain nombre qui sont là pour passer, pour aller vers la Grande-Bretagne, pour aller vers d'autres pays. Il y en a qui sont pour rester quelque temps, le temps de reconstruire des choses avant de repartir. Il y en a d'autres qui veulent s'installer. Tout ça, on fait fi. Moi, j'ai été frappé pendant cette commission d'enquête de voir que très peu de gens pensaient qu'il fallait construire avec les migrants leur projet de vie, qu'il fallait trouver comment on va, avec eux, voir où ils vont s'installer, comment ils vont s'installer.
Reconstruire des villages, parce que vous étiez venu à Colomiers pour nous parler de la ville de Riace, en Palabre, où le maire, soi-disant, a été emprisonné pour différentes fraudes.
Mais non, mais ça, c'est des prétextes complètement fallacieux. Ce qu'il a fait, c'est qu'il y avait effectivement des migrants qui arrivaient sur les plages environnantes, et il avait un village dont il avait la charge en tant que maire, qui était en train de mourir, puisqu'il n'y avait plus personne, et il a commencé par faire retaper les maisons par les migrants. Certains sont installés, d'autres sont repartis, et le village a retrouvé vie. C'est ça qui s'est passé. Mais en faisant ça... Il s'est mis en face d'un certain nombre de problèmes.
D'intérêts locaux, contradictoires.
D'intérêts mafieux, parce qu'il y a aussi cet aspect. Mais sur ces OQTF, pour revenir à ce sujet, le politique qui nous dit « il en faut plus, il en faut moins », etc., il passe complètement à côté du sujet.
Sébastien, il nous reste 2 minutes. J'aurais voulu, et vous vouliez qu'on parle du cardinal secrétaire d'État Pietro Parolin, qui évoque la responsabilité des peuples par rapport aux migrations. Je pense que nous n'aurons pas le temps, mais vous avez apporté l'autre citation importante du pape François, je crois, qui nous rappelle que nous sommes tous frères. Certains pensent que c'est très important que nous ayons un père, une transcendance. Tout à l'heure, vous parliez de ce combat à l'intérieur de soi-même pour la paix, comme le dit le grand djihad par rapport au petit djihad qu'est la guerre. D'abord en soi-même, et puis dans notre quartier, dans notre ville. Et vous nous apportez cette espérance et cette conviction que la paix est possible. Et non seulement elle est possible, mais elle est nécessaire et elle nous est demandée pour que nous puissions vivre en paix dans cette maison commune.
Complètement, la paix est possible, la paix est nécessaire, mais elle ne vient pas toute seule. C'est un combat de chacun, un combat quotidien, lequel doit être remis en perspective. Et c'est en cela que je vous disais que l'encyclique Laudato Si, on a une petite discussion juste avant à ce sujet, a quelque chose d'éclairant quand finalement on a cette phrase, je la cite, « Le défi urgent de sauvegarder notre maison commune » inclut les préoccupations d'unir toute la famille humaine dans la recherche d'un développement durable et intégral. Et si on est en train de se chamailler, de se battre avec son voisin, croyez-vous qu'on va trouver sur notre vaisseau commun qu'est la Terre le moyen de bien vivre ce futur et de léguer un bien vivre aux générations futures?
À nos enfants. Merci Sébastien. Certains pensent que c'est pas possible à vue humaine, d'autres pensent qu'il faut prier, mais ça c'est dans l'intimité de chacun. Merci pour votre témoignage et nous allons vous demander de revenir bientôt. Merci à Christophe pour l'enregistrement.